Bulgare possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Sainte-Soline, on n'oublie pas, on pardonne pas. Sainte-Soline, on n'oublie pas, on pardonne pas.
Nous sommes ici pour témoigner de la violence d'État et de ses conséquences. Nous sommes ici pour témoigner de ce qui nous a liés le 25 mars 23 à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, le gouvernement est coupable de multiples violences. Il a refusé le dialogue et le débat démocratique. Il a testé des techniques d'identification et de répression immédiate. Il a utilisé des armes de guerre contre des manifestants et manifestantes. Il l'a prémédité et ensuite, il a empêché la prise en charge urgente des blessés.
On est toujours là. Ils ont essayé de nous faire mordre la poussière, mais en fait, ils ont fait que renforcer notre détermination.
Déter et vénère. 25 mars 2024, un an après la féroce répression policière à Sainte-Soline, suivie d'une lourde répression judiciaire, le mouvement anti-bassine non seulement ne faiblit pas, mais se renforce. Et la science est l'un des outils de cette lutte. On en a déjà parlé dans cette émission avec Anne Morouen-Pastier, qu'on entendait à l'instant. Anne Morouen-Pastier, docteur en géologie, qu'on retrouvera tout à l'heure en seconde partie d'émission. Mais pour l'heure, retour sur le lundi 25 mars 2024, les 1 an de Sainte-Soline 2.
Joyeux anniversaire, Sainte-Soline! Joyeux anniversaire!
On aura du soucousse toute la soirée.
Au soir du 25 mars 2024, une quarantaine de méga-booms ont eu lieu un peu partout dans des villes de France, devant des préfectures, gendarmeries ou palais de justice. Boom en référence au boom des 5000 grenades tirées sur la manifestation de Sainte-Soline 2023. On est venu se rassembler en place publique pour un petit pique-nique du soir qui commence avec la lecture d'une lettre envoyée depuis Mel, un village pas très loin de Sainte-Soline.
Samedi, il y a un texte qui a été dit au moment de la construction du cairn. Samedi, à Mel, il y a un cairn qui a été construit, qui a été agencé. Un cairn qui est là pour symboliser la lutte, qui est là aussi pour incarner les blessures, mais aussi les dépasser. Et exprimer que nous sommes toujours là. On ne va pas nous arrêter comme ça. Malgré les violences, malgré ce qu'on a pris dans la gueule, on est bien présent, on est bien déterminé et on va continuer le combat. Voilà, je vous propose d'engager ce texte. Nous sommes ici pour témoigner de la violence d'État et de ses conséquences. Nous sommes ici pour témoigner de ce qui nous a liés, toutes et tous, le 25 mars 23 à Sainte-Soline. La promesse faite la veille de la manifestation, le 24 mars, par l'immonde ministre Darmanin. Cette promesse fut tenue. Nous verrons des images extrêmement dures. Nous savons qu'à ce moment-là, Darmanin a déjà prévu les chars, les 9 hélicoptères, les quads, les 3200 gendarmes, les flashballs, les milliers de grenades. Les caisses de munitions sont déjà chargées dans les fourgons en direction de Sainte-Soline. Il a déjà accepté que les armes déployées puissent tuer l'une ou l'un d'entre nous. Il a même probablement déjà établi le périmètre de la zone rouge où l'intervention des secours serait interdite. Le 25 mars, le ministre de l'Intérieur et la préfète, à ses ordres, ont déjà prévu de transformer la bassine de Sainte-Soline en une forteresse, dont les gardiens auraient pour ordre, quoi qu'il en coûte, de défendre un cratère vide. Cratère qui n'est toujours qu'un immense trou, vide un an plus tard. Le 25 mars 2023, nous avons vécu des choses extrêmement dures. Ce sont plus de 200 manifestantes et manifestants qui ont été gravement blessés et des dizaines de milliers de personnes qui ont été impactées psychologiquement. Oui, à Sainte-Soline, le gouvernement est coupable de multiples violences. Il a refusé le dialogue et le débat démocratique. Il a testé des techniques d'identification et de répression immédiate. Il a utilisé des armes de guerre contre des manifestants et manifestantes. Il l'a prémédité et ensuite, il a empêché la prise en charge urgente des blessés.
Cette violence et les discours mensongers qui l'accompagnent ne sont pas nouveaux. Ses premières cibles sont les populations reléguées et invisibilisées, les habitants et habitantes des quartiers, les gilets jaunes, les personnes et collectifs racisés. Depuis un an, cette violence continue à assaillir le combat pour le vivant. Aujourd'hui, les forces de l'ordre continuent, dans l'impunité la plus totale, à réprimer nos camarades qui protègent les arbres centenaires menacés par le projet futile et écocide de l'A69. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rappeler que nous ne laisserons pas ces violences devenir des banalités. Nous qui prenons la parole aujourd'hui, faisons partie d'un collectif de 70 blessés et témoins qui ont saisi la défenseure des droits pour que la vérité sur les violences d'État à Sainte-Soline soit entendue. Nous ne laisserons pas le récit de cette journée être instrumentalisé. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour constater que la gravité de la répression gouvernementale est à la hauteur de la crainte que lui inspire un mouvement anti-bassine qui a réussi depuis plusieurs années à fédérer et à peser dans le champ politique. Ouais !
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rappeler la beauté et la force des liens qui se sont tissés dans les cortèges, des échanges qui ont eu lieu à Mel, toutes les initiatives qui ont permis de prendre soin les uns et les unes des autres, cette énergie collective qui nous a permis de veiller sur les esprits et les corps meurtris, d'accompagner ensuite celles et ceux que les gendarmes ont emportés et de tenir bon face à la déferlante de mensonges déversés par les puissants pour sauver leur peau.
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rappeler que cette mobilisation incarne tout ce qui est insupportable aux autorités. Il leur est insupportable de ne pas trouver comment étouffer un mouvement populaire constitué de plus de 200 organisations syndicales, politiques, paysannes et environnementales. Il leur est insupportable que, malgré leur répression, leurs intimidations et leur propagande mensongère, des dizaines de milliers de personnes choisissent de faire le déplacement de partout en France et même d'autres pays parce que la cause qu'elles défendent leur apparaît comme nécessaire et juste. Rappelons que la majorité de ces bassines sont illégales et que les chantiers en cours concernent des bassines qui sont encore en train d'être jugées. Il leur est insupportable de voir s'effriter l'opposition factice qu'ils construisent entre agriculteurs et écologistes. Quand plusieurs convois de tracteurs traversent la France et contournent les blocages à travers champs pour rejoindre Sainte-Soline, quand un cortège mené par des paysans et paysannes plante 300 mètres de haies, quand les tribunes sont occupées par des maraîchères qui disent la réalité de leur métier sur ce territoire bassiné, il devient bien plus difficile de faire durer la fable. Il leur est insupportable de voir leur asservissement aux intérêts capitalistes de l'agro-industrie dénoncé haut et fort d'être rendu visible dans leur manigance et leur passage en force.
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons envie de dire que la résignation ne gagne pas, que leur violence ne nous décourage pas et que nous saurons y échapper, résister et les combattre. Ce qui l'a emporté à Sainte-Soline, c'est la détermination en acte et le sentiment d'avoir été au bon endroit pour défendre quelque chose d'important. Avec le mouvement anti-bassine, nous faisons tenir ensemble la joie, la rage et la détermination. Notre combat d'utilité publique, porté par des centaines de milliers de personnes, est un combat fondamental pour toute forme de vie. C'est un combat joyeux qui se mène sur de multiples terrains et qui n'oublie jamais de célébrer la puissance d'être ensemble dans cet objectif commun.
Alors ce soir, partout où c'est possible, les comités locaux organisent des méga-booms pour panser les blessures, mais aussi illustrer les alliances, fêter les réussites et incarner des solidarités. Ce geste nous permet de dire que nous continuons à nous mobiliser pour que cesse la violence d'État contre tous et contre tous les mouvements sociaux, pour que cessent aussi les autres formes de violence que le gouvernement et l'agro-industrie nous imposent. Des agriculteurs qui galèrent à vivre dignement de leur travail, des habitantes et habitants qui n'ont plus accès à une alimentation de qualité et à de l'eau potable. Nous allons continuer de nous battre pour le partage de l'eau. Nous nous retrouverons à nouveau dans les mois à venir pour mettre un terme au projet de méga-bassines partout en France. No Bassaran !
No Bassaran ! No Bassaran ! No Bassaran ! No Bassaran !
Salut Phil !
Salut Jibed !
Tu semblais réjoui tout à l'heure à l'annonce d'une bonne nouvelle.
Alors oui, ça fait un an que Darmanin a menti. À propos de Sainte-Soline, un de ses mensonges, ça a été Sainte-Soline. Et il a menti devant une haute instance de l'État, puisqu'il a été auditionné suite à ces violences à Sainte-Soline. Et il a expliqué que non, pas du tout, il n'y a pas eu de violence policière, on a été attaqué par des méchants éco-terroristes. Pour l'anniversaire de Sainte-Soline, il a une plainte. On a réalisé une plainte contre lui.
C'est qui?
C'est Bassine Non Merci, qui est derrière, qui agrège autre personne. Et nous pouvons tous la signer, cette plainte. Nous pouvons tous être complaignants et complaignantes. On peut la signer en ligne sur le site de Bassine Non Merci. Et c'est le moment de se saisir de cet instant, d'affirmer la vérité, d'expliquer que non, pas du tout. Et on est là pour ça, ce soir, à plusieurs endroits sur le territoire, avec ces méga-booms, pour expliquer, pour redire que non, la narration du gouvernement, c'est pas celle qu'on a vécue. Voilà, donc là, il y a une plainte qui est déposée contre Darmanin, et c'est une excellente nouvelle.
Et donc, on peut la co-signer en se rendant sur le site de Bassine Non Merci.
On la trouve, on peut la signer là-bas.
Darmanin, ta place est en prison, et nous, on va se battre. Et nous, on va se battre contre les mines et la bassine. Ouais, c'est en prison. La malade, ta place est en prison. Et nous, on va se battre. Et nous, on va se battre contre les méga-bassines.
Voilà pour cette commémoration du 25 mars, à la fois grave et festive. Retour quelques jours plus tôt, où, à l'université de Tours, on a eu le plaisir de retrouver Anne Morouen-Pastier, docteure en géologie, chercheuse interdisciplinaire en sciences de la Terre, géoscientifique compétente en hydrogéologie, indépendante des réseaux universitaires, on va en parler aussi, est venue échanger avec un public. Bonjour Anne Morouen-Pastier.
Bonjour JB.
La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était au convoi de l'eau au mois d'août. Le convoi de l'eau est passé par la ville de Tours et c'était une très très chouette journée. Ça fait un peu excessif de dire historique, mais j'ai quand même envie de le dire. Il s'est passé quelque chose de très important ce jour-là et c'était chouette.
C'est vrai, c'était très chouette. Je m'étais baignée dans la fontaine devant l'hôtel de ville. Enfin, ce moment avait été assez magique.
Vendredi 22 mars, on a le plaisir de se recroiser. C'est une grosse journée pour toi aujourd'hui. Je suppose que c'est des grosses journées tout le temps.
Oui, c'est un peu chargé en ce moment entre le travail sur les bassines et puis la séquence des 1 an de cet événement qui a été la manifestation de Sainte-Soline. 25 mars.
On s'était aussi croisés là, dans les champs. Vous étiez magnifique, blouse blanche au vent.
Oui, puis on s'était croisés avant qu'on arrive sur le champ de bataille. Donc j'avais encore le sourire, ouais. Je l'ai perdu au bout de 5 minutes à peu près sur ce qu'on peut appeler le champ de bataille. Après avoir vu plusieurs blessés passer, c'est là que j'ai très très vite déchanté. La deuxième couche de violence qu'on s'est pris derrière Sainte-Soline, c'est le traitement médiatique qu'il y a eu. Les mensonges de Darmanin sur le déroulé des faits.
Il y a eu aussi après le procès de Niort, enfin l'appeler la justice, a été très dur hein, avec les syndicalistes, les gens de la Conf, Julien Le Guay.
Ouais, les gens des soulèvements. Puis oui, jusqu'à arriver à ces 2 journées de procès, du coup, où ils ont ciblé quelques têtes alors qu'il y avait 200 orgas qui avaient appelé à manifester. Oui, on a des peines assez lourdes quand même pour les faits qui leur sont reprochés. 12 mois avec sursis au maximum pour Julien Le Guay, c'est la même peine que le policier qui a mutilé Théo, qui a été un des rares condamnés. Et puis des amendes pour interdiction de manifester à des représentants syndicaux, c'était pas arrivé depuis 1940.
Avant ou après l'invasion nazie ?
Pendant la collaboration.
Aujourd'hui, on se retrouve dans un amphithéâtre de l'Université de Tours. On va parler aussi de ta matinée, puisque vous étiez avec des copaines du coin au lycée agricole de Fondette. C'est quoi ton actualité, ton activité depuis Sainte-Soline, Niort ?
Ma principale activité, je dirais, c'est de monter un laboratoire associatif le laboratoire radical et oblique des urgences en sciences de la Terre, le LARUST, dont le but est d'amener des contre-expertises scientifiques ou des expertises et d'aider les luttes écologistes, on ne va pas se cacher. Donc ça, c'est ce qui occupe le plus gros de mes journées. Et puis, oui, pas mal d'interventions. Alors, soit en général sur le cycle de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, avec notamment les risques sur l'eau potable. Hein, dans la Vienne, on n'a plus d'eau potable, on a de l'eau consommable. Il y a un taux de pesticides tellement élevé et ils ne savent pas comment le diluer ou comment le traiter. Donc, pour qu'on ait toujours de l'eau au robinet, le préfet a autorisé la distribution d'une eau qui n'est pas potable à nos robinets. Donc là, il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de cette question.
Ça veut dire quoi? Qu'on ne meurt pas tout de suite?
Oui, voilà, ça veut dire qu'on ne meurt pas tout de suite. Si on écoute l'ARS, quand ils ont trouvé les premières traces de chlorothalonil, ils nous ont dit, bon, c'est moins dangereux que le tabac et l'alcool. Hein. Et puis, c'est comme le soleil, il suffit de ne pas trop s'exposer. Donc voilà, pas trop s'exposer à l'eau potable, je ne sais pas comment on fait, moi, mais voilà. Ben voilà, il y a ce côté que de toute façon, ils ne savent pas faire autrement. Même si on arrivait à la traiter, les usines ne sont pas en place et puis ça coûterait trop cher. Et comme le traitement de l'eau, il est payé par nous, pas par les gens qui mettent les produits polluants dans les nappes. Bon, voilà. Et en plus, ça poserait un troisième problème, c'est que s'ils arrivaient à le traiter, alors l'eau, elle serait plus assez minéralisée. Il faudrait la reminéraliser derrière. Il n'y a plus de tuyaux à tirer pour diluer l'eau avec une eau moins polluée, parce que chez nous, toutes les nappes sont polluées. Donc du coup, il y a pas mal de demandes pour avoir des bases de connaissances juste sur le cycle de l'eau. C'est aussi dans ce cadre-là que j'étais ce matin au lycée agricole. C'était vraiment pour, en tant que scientifique, amener un éclairage vraiment de connaissances de base à des lycéens et des lycéennes du lycée agricole pour qu'ils, elles, puissent réfléchir à comment...
Travailler,
faire peut-être essayer en tout cas de faire une autre agriculture qui soit moins impactante sur ce qu'on appelle la ressource en eau. J'aime pas trop ce terme, mais... c'était très très chouette. Ils étaient vraiment intéressés. Alors,
des gens de quel âge?
Entre 16 et 18 ans, je dirais. Okay. Deux classes complètes. Okay, puis il y avait des petits débats, plusieurs intervenants, les maîtres et maîtresses de stage, donc aussi des gens qui ont des exploitations, avec qui on a pu discuter. Et c'est toujours bien de sortir un peu de son petit cercle militant pour... aller se confronter à d'autres opinions, aller discuter avec des gens qui ne sont pas du même monde.
Alors, à moins que je ne me trompe, ce qui est sûrement le cas, j'ai l'impression ou je me fais une idée que l'enseignement qui est proposé au lycée agricole de Fondette est très agriculture conventionnelle, comme on dit.
C'est la première fois que j'allais à ce lycée agricole, donc je n'aurais pas d'opinion sur ce lycée agricole. Par rapport au lycée agricole de Mel, là, il n'y avait pas les drapeaux de la FNSEA à l'entrée, quoi. Donc c'est déjà une grande différence. J'ai trouvé justement qu'ils étaient très ouverts à d'autres opinions. Il y a plusieurs profs qui ont parlé beaucoup du complexe argilo-humique, de pas forcément aller dans des solutions technologiques, mais sur des solutions basées sur la nature. Ça m'a beaucoup plu. J'ai pas senti des gens fermés. J'ai appris des choses. Et ça, c'est toujours sympathique, quoi.
Et donc, tu es arrivé devant les gens en disant, voilà, je suis docteur Anne-Marouane Pastier, j'ai telle compétence en hydrogéologie et sciences de la Terre, etc. Et tu as fait un exposé. Et après, il y a eu un échange. Ça s'est passé comment?
Pas vraiment. Il y a eu déjà des petits échanges avant. Ils ont eu quelques petits films pédagogiques, notamment du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière.
J'y arriverai jamais.
Ouais, c'est normal.
Pourtant, on va en reparler.
Et donc après j'ai complété, mais du coup j'ai plutôt parlé de ce qui manquait dans le film du BRGM, c'est-à-dire l'évapotranspiration, et puis des prévisions du GIEC sur la sécheresse, sur le côté très aléatoire des précipitations dans les décennies à venir. Du coup, pour avoir vraiment des bases scientifiques, pour qu'on puisse réfléchir, eux ils n'ont même pas la vingtaine, ça les concerne directement. Ils vont commencer des exploitations agricoles avec une incertitude climatique énorme. Donc j'ai senti qu'ils étaient assez réceptifs. Hein. J'ai pas senti de climato-scepticisme. C'est plutôt comment on va faire si on se tape des inondations, 9 ans de sécheresse.
Il y a eu des questions de leur part?
Oui, il y a eu des questions. Après, on n'a pas pu débattre sur tous les sujets. Il y a cette grande remise en question, je pense, qui est commune à l'ensemble de la population qui n'est pas très au courant de ces question-là. C'est-à-dire, en France, à part dans certaines régions, on est habitué à avoir de l'eau au robinet, on est habitué à avoir de l'eau dans les forages, on ne se pose pas la question.
Pas partout en France, hein, parce que non. Depuis quelques étés...
Je suis désolée pour les gens du Sud-Est, ouais. Moi, c'est un peu l'autre bout de la France pour moi. Ouais. C'est pas trop ma culture.
J'ai des copains qui partent en vacances par là-bas, qui me disent qu'ils croisent les camions-citernes. Non, c'est pas du lait, c'est des camions qui viennent apporter de l'eau dans les villages qui n'en reçoivent plus.
Puis dans ces régions-là, bah, après, on est habitué un petit peu à un climat aride, donc il y a évidemment que c'est surprenant, mais je dirais que pour la façade ouest, nous, on est habitué à se prendre les nuages avec l'océan et que là, d'un seul coup, qu'on continue à avoir des pluies, mais qu'on n'ait plus d'eau facilement disponible, ah bah, ça commence à poser des questions, quoi, vraiment. Et ça touche tout le monde, donc c'est là où, bah, de droite, de gauche, tout le monde a un robinet. Donc il y a vraiment de plus en plus de gens qui se posent des questions à ce niveau-là.
Nous nous sommes rencontrés fin 2022, début 2023, je crois, puisqu'à l'époque, tu travaillais sur le désarmement d'un rapport du BRGM. Et tu t'apprêtais d'ailleurs à donner publiquement le résultat de tes travaux, de ton étude. Et en fait, il ne faut pas des grands ordinateurs et des trucs de ouf. Hein. C'est voilà, un peu de jugeote apparemment, un calepin, un crayon et 2-3 données, ça suffit. Et donc, rapport du BRGM, celui que tu as démonté en tout cas, dont se servaient les gens favorables à l'utilisation des mégabassines. En disant non, ça fait rien, on peut y aller, vous inquiétez pas. Donc, tu avais démontré en fait que ce fameux rapport du BRGM, c'était une mauvaise réponse à une question mal posée. Depuis, est-ce que les partisans, les tenants de l'utilisation des bassines ont recommandé une étude scientifique, par exemple au BRGM ? Est-ce qu'il y a eu des choses de faites là-dessus ?
Non, il n'y a pas eu de nouvel argument. Ce qu'il y a eu beaucoup en face, c'est avec l'hiver qu'on a eu, énormément de pluie. Donc, ils n'ont pas arrêté de dire partout, regardez ce qui pleut, combien de bassines on pourrait remplir avec toute cette eau qui part à la mer, tout ça. Voilà. Donc, non, ils n'ont plus d'argument scientifique en face.
Est-ce qu'il y a eu des endroits où, effectivement, des nappes ont été rechargées par toutes ces précipitations qu'on a connues dans nos tropiques, en tout cas ?
Oui. Alors, bon, moi, je n'ai pas regardé partout en France. Hein. Dans la Vienne, dans le bassin du Clain, là, toutes nos nappes sont enfin rechargées, quasi totalement. Après, il a fallu quand même 3-4 mois de pluie intense. On est parti de niveau très bas, on avait des sols très secs, ça a beaucoup ruisselé. Et finalement... On a fini, mais alors juste très très récemment, par avoir une dernière augmentation qui fait qu'elles sont toutes à des niveaux records. Ça fait quelques décennies au mieux qu'on enregistre le niveau des nappes. Ce qu'on appelle les niveaux moyens, ben en fait, c'est des niveaux qui sont bas. Parce que ça fait des années qu'on surexploite les nappes. Donc ce qu'on a enregistré, ce n'est pas des bons niveaux. Donc là, on est à des records historiques. Ce qui ne veut pas forcément dire que les nappes sont saturées, c'est-à-dire pleines à craquer. Sur 20 piézomètres, les sondes qui mesurent le niveau des nappes, on n'en a que 2 qui montrent des nappes complètement pleines. Les autres, elles n'ont jamais été aussi pleines pour la saison. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas les remplir encore un peu plus. Hein. Voilà. Alors qu'on a eu des précipitations exceptionnelles, on n'a pas eu des crues exceptionnelles. Il faut garder ça à l'esprit. Hein. Il y a eu une étude scientifique qui est sortie dans le bassin du Clain où on a quand même un projet de 30 mégabassines. C'est l'étude HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. Cette étude, elle a été portée, pilotée par l'EPTB, l'établissement public territorial de bassin de la Vienne, et elle a été réalisée par le groupe Suez. Le groupe Suez, on ne peut pas dire que ce soit des gauchistes écolos. Hein.
Non, on ne peut pas le dire.
Et le but de cette étude, c'est d'essayer de déterminer les volumes prélevables, donc le volume maximum qu'on pourrait prélever dans les nappes, tout en maintenant l'approvisionnement en eau potable et un écoulement dans les cours d'eau pour que les poissons ne crèvent pas. Et du coup, Suez préconise de diminuer drastiquement les volumes qui sont prélevés. Il y a des endroits et des saisons, c'est 100% de diminution, c'est-à-dire on arrête de prélever. Cette étude scientifique, elle doit être la base pour élaborer derrière un PTGE, un plan territorial de gestion de l'eau. L'idée, c'est de mettre tous les acteurs de l'eau autour de la table et de trouver un accord pour qu'on évite de reproduire des choses comme Sainte-Soline, hein, concrètement. C'est des choses qui ont été mises en place après la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens. Et là, en fait, la commission locale de l'eau refuse l'étude. Ils ont acté la fin de l'étude, mais ils ne valident pas les conclusions. Donc là, on a des politiques qui s'opposent à une étude scientifique qui fait juste un constat, en fait, et des recommandations, mais voilà. Et on a eu une levée de bouclier de la part de la préfecture, du département, des principaux irrigants du département, de la Chambre d'agriculture, contre une étude scientifique. Pour moi, scientifique, ça me touche beaucoup. Et puis, je trouve que c'est une étape de plus dans le règne de l'absurdité. Quoi. C'est comme le rapport du GIEC, en fait. On le cache, on ne veut pas le voir. On sait très bien ce qui arrive et puis on refuse de le voir. Parce qu'ils disent que les conséquences socio-économiques sont trop importantes. Voilà, faut changer le modèle agricole et ils ne veulent pas changer le modèle agricole. Donc ça, au niveau scientifique, c'est quand même une grosse actualité chez nous. Dans le bassin de la Sèvre-Niortaise, on l'attend encore. Elle a commencé avant celle du Clain, elle n'est toujours pas finie. Bon, moi, je me demande un petit peu pourquoi. Et sinon, il y a eu autre chose. Il y a eu un petit article là de l'ENS, l'École Normale Supérieure, qui a fait un bilan hydrologique des bassines sur un bassin versant en Vendée, qui s'appelle le bassin des Autises. Il y a des bassines depuis une dizaine d'années. Il y a beaucoup de bassines, de grosses bassines, sur ce bassin versant depuis des années. On voit le niveau minimum des nappes qui a remonté, mais il faut dire qu'en même temps, ils ont remonté le seuil de gestion de crise. Donc sous ce niveau minimum, ils n'ont plus le droit de prélever. Donc évidemment que le niveau, il a remonté. En contrepartie, donc évidemment, le conseil d'administration de l'agence de l'eau et puis le syndicat mixte de ce bassin versant disent « Ah, mais c'est formidable, c'est grâce aux bassines que les niveaux ils sont remontés. » Oui, alors bon, on oublie quand même le seuil de gestion collective, mais voilà. Et puis, ce qu'on voit en contrepartie, c'est que la recharge des nappes, au lieu d'arriver en octobre, novembre, elle arrive plutôt en décembre. L'étiage, le niveau minimum, il est retardé. Bah après, il faudrait un peu plus de recul, mais on a même le niveau maximum de recharge qui est légèrement plus bas. Donc on a un impact des mégabassines sur le niveau des nappes. Le remplissage des mégabassines en hiver, ça ne fait pas rien en fait. Ils nous ont toujours dit c'est de l'eau excédentaire, c'est pas grave de la prélever. Et en fait, on voit que bah, si, ça, c'est assez grave. Parce que si on a un hiver où au début, il pleut comme il faut, mais que les pluies s'arrêtent au mois de décembre en pleine recharge de la nappe, bah, les bassines elles sont remplies et les nappes elles le sont pas pour assurer l'eau potable et la survie des milieux derrière. Donc quand même ça c'est une bonne nouvelle scientifique je dirais. Enfin...
Et toujours le constat que les tenants des mégabassines eux n'ont toujours rien pour scientifiquement étayer leur pratique.
Non, toujours rien. Non, voilà. Et justement, enfin moi je les invite encore une nouvelle fois hein, parce qu'on n'a pas d'espace public de débat scientifique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous manque, en fait. On se bat à coups de punchline dans les journaux, mais au mieux, voilà, lundi, probablement, je suis en débat sur France 3 avec le président des irrigants de la Vienne. Ah oui, mais on va avoir 5-6 minutes, en fait. Donc on ne peut pas exposer une pensée, on va sortir chacun nos arguments, nos messages avec nos éléments de langage, et puis on ne va pas avoir débattu. La population ne va pas avoir plus d'éléments pour se faire un avis pour ou contre, en fait. Nous, on a moins de moyens. Eux, ils ont 5 équivalents temps plein. Nous, on n'a pas de salariés, par exemple. On ne se bat pas à armes égales, en fait.
Cela dit, donc, création de ce labo indépendant dont tu parlais en début d'entretien.
Ça s'appelle le LARUST, le Laboratoire Radical et Oblique des Urgences en Sciences de la Terre. Ce n'est pas seulement l'idée de faire des expertises ou des contre-expertises pour donner des arguments scientifiques aux luttes écolo. Il y a un but plus profond et philosophique derrière. Il s'agit de décloisonner le monde de la recherche, aussi bien de faire sortir la recherche des laboratoires pour la rendre accessible, mais aussi, et là, bon, je suis encore un peu... comment on dit, ma fille a dit matrixée, quoi. Je suis encore un peu... formaté par le monde académique.
Prends la pilule rouge.
Voilà, exactement. Et où est-ce que je trouve cette pilule rouge ? Pour aussi faire rentrer des gens qui ont une expertise d'usage, qui sont déjà dans une démarche de recherche, mais de les aider à acquérir une légitimité peut-être auprès des institutions et du grand public. Voilà, donc je pense à des réseaux comme France Nature Environnement, la Fédération de Pêche, la LPO... C'est des gens qui sont sur le terrain très régulièrement, qui font des relevés, qui collectent des données, qui ont une démarche de recherche. Comment on se sert de cette expertise d'usage, enfin, comment elle rentre dans le champ de la recherche et que cette recherche soit plus académique, que c'est parce qu'on a un titre de docteur ou de professeur ou de je sais pas quoi qu'on fait de la recherche en fait. Non, moi je connais des directeurs de recherche CNRS qui sont mauvais, qui sont des mauvais chercheurs. Et je connais des gens qui sont techniciens de laboratoire et qui sont d'excellents chercheurs, en fait.
Oui, mais c'est malheureux, mais tu vois bien que c'est, quand je t'appelle docteur, d'abord ça me fait rire, mais surtout c'est un instrument de propagande, en fait. C'est dire, bon, elle, c'est pas une zozote, en fait, c'est ce qu'elle dit, et dans le monde là qui nous entoure, c'est un truc communément admis que quand on est docteur, on dit pas toujours que des conneries, en fait.
Ouais, ça dépend quel docteur, hein. J'en connais, il faut vraiment qu'ils ferment leur bouche, hein. Ouais, ouais, et qu'ils laissent parler des gens qui sont pas docteurs. Après, bah oui, voilà, entre nous, c'est devenu une blague, hein, donc c'est. Mais sinon, j'aime pas trop qu'on m'appelle docteur, à part quand il faut jouer le jeu des institutions, en fait. Où là, là, je sors la cartouche du titre, puisque c'est un titre quand même.
C'est un instrument de propagande. Enfin, là, écoute, on fait feu de tout bois, hein.
Ouais, absolument, absolument. Et ça marche pas mal, hein, quand même, bah, contre le camp d'en face, parce que quand j'ai sorti cette contre-expertise, il y a des gens qui ont essayé d'attaquer sur le fait, ah, mais vous êtes militante. Bah oui, je suis militante, mais en fait, qui ne l'est pas, enfin, voilà. Et du coup, oui, c'est vrai que là, je me sers de cette cartouche-là. J'ai pas de remords à me servir de cette cartouche quand on m'attaque avec de la mauvaise foi, quoi. Ouais.
Les gens vont arriver là pour cette rencontre d'ici peu. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant ?
Ben, on va avoir une discussion. On va parler justement de ce qui s'est passé un peu après Sainte-Soline pendant cette année. Bien marteler le fait qu'on est toujours là, qu'ils ont essayé de nous faire mordre la poussière, mais en fait, ils ont fait que renforcer notre détermination. Et même si on est des centaines, des milliers à être marqués par cette journée-là, bah, en fait, au contraire, moi, ça m'a plutôt renforcé, quoi. Et à ce sujet, je conseille le super documentaire de Off Investigation et Reporter sur la journée de Sainte-Soline. Voilà, où il y a plusieurs témoignages et où l'excellent ouvrage du collectif Le Loriot, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, on est beaucoup à être à la fois marqué par cette journée, par les détonations, les cris pour appeler les médics. C'est vraiment beaucoup des deux choses qui reviennent. Et tous les témoignages finissent par « on est encore là, si c'était à refaire, on le referait ». Et puis, bah, on prépare déjà la suite, puisqu'on prépare la mobilisation de cet été du 15 au 21 juillet, où je suis persuadée que je te croiserai à nouveau à cette occasion.
Du 15 au 19 juillet 2024, nouvelle mobilisation internationale contre les bassines, villages et convois de l'eau, quelque part dans le Poitou.
Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons?
À ton avis, c'est pour quoi faire?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ce qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais ferme les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quadres appliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge est étendu par terre. On ne se confisque pas, ne se gaspille pas. Les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz, mais nous on t'a toi.
Soulève-toi et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basse.
Soulève-toi
et ils vont craquer.
Sauf que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi,
ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi, méfiance, méfiance.
Face à l'eau qui dort, les projets de bassine sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la
mais
terre.
Mais qu'est-ce qui va dissoudre? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes.
Coude à coude.
Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquider sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine.
Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y a tant de choses à chérir, à l'affût j'en verrai pas de bout. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui s'effort, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi. J'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira.
Deviens un spectre,
esprit frappeur, un fantôme. Pas de sabotage, non, du désarmement.
C'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends, elle n'a pas de prix.
C'est l'espoir qui veulent dissoudre,
autant assécher la pluie.
Mais ils essayent de nous faire taire,
c'est là qu'on fait le plus de bruit.
Alors je mets feu au bulldozer,
c'est pour éclairer la nuit.
Soulève-toi et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au bas.
Soulève-toi
et ils vont craquer.
Sûr que nous, aussi, on va passer en France.
Soulève-toi,
ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi, confiance, confiance.
Ceux qui repoussent partout ne peuvent être dissous.
Arval, soulève-toi. On continue avec Anne Morwenne-Pastier, à présent en échange public. Et donc avec une double étiquette, docteur et chercheuse en sciences de la Terre donc, et aussi membre du collectif Bassine Non Merci du 86.
Enfin, est-ce que tout le monde est au clair sur ce que c'est une bassine, comment ça marche? En fait, on se met d'accord en ce moment sur une définition de ce que c'est une bassine, parce qu'il y a plusieurs typologies. Donc pour nous, une bassine, c'est un trou artificiel, étanchéifié, que ce soit pas... Maintenant, ils mettent que des bâches plastiques, mais avant, il y avait de l'argile dans les fonds, et qui est rempli par pompage, que ce soit dans les nappes ou dans les cours d'eau. C'est jamais rempli par ruissellement, par collecte des eaux de pluie. Ce qu'on appelle une bassine, c'est entre 10 000 et 100 000 mètres cubes, et en général inférieur à un hectare, mais ça peut dépasser. Ce qu'on appelle méga bassine, c'est entre 100 000 et 999 000 mètres cubes. Et maintenant, il y a des projets de giga bassines à plus d'un million de mètres cubes. On réfléchit à comment on va appeler le méga canal Seine-Oise qui va faire 15 millions de mètres cubes. Et là, peut-être des terra-bassines, on ne sait pas jusqu'où s'arrêteront-ils. Voilà, ces giga bassines, les projets sont dans le Puy-de-Dôme. Il y a une mobilisation qui fait partie de la saison, je ne sais plus combien, des soulèvements. 7, merci. Le 11, voilà, dans le Puy-de-Dôme. Et elles sont directement reliées à l'Imagrin, un des principaux producteurs de semences de maïs. Dans les Deux-Sèvres, sur le projet qui nous occupe actuellement, on n'en est toujours qu'à une bassine en activité. On en a trois en chantier. Sainte-Soline n'est toujours pas finie. Ils auraient visiblement quelques petits problèmes techniques qui ne sont pas de notre fait. D'accord ? Non, c'est l'eau qui se défend toute seule. Et c'est parce que la nappe recoupe le chantier de la bassine et on pense qu'ils ont eu peur d'installer la bâche cet été quand la nappe était basse. Ils ont peur qu'il lui arrive des ennuis. Et du coup, quand ils ont attendu le temps qu'il fallait pour pouvoir la remplir directement, la nappe était remontée et du coup, là, ça leur pose des problèmes techniques. On a deux chantiers qui ont commencé depuis. Il y en a un qui a commencé, c'est assez emblématique, il a commencé pendant le convoi de l'eau. Au moment même où on était en négociation dans l'agence de l'eau, on a un chantier qui démarre. Et nous, à l'époque, on demandait un moratoire sur les bassines. Bon, depuis, on est plusieurs collectifs à plus demander un moratoire, mais à demander un abandon. En gros, ils étaient prêts à nous accorder 10 jours de moratoire. Donc on a dit, non, merci. Le comité de bassin voulait lancer une mission de médiation entre les agriculteurs, agricultrices et les partenaires environnementaux au sens large, on va dire, et puis les usagers aussi d'eau potable, qui allait durer plusieurs mois, et le conseil d'administration n'a pas voulu mettre en place un moratoire pendant le temps de cette mission de médiation. Ce que nous, on demandait quand même. Donc on demandait 4-5 mois d'arrêt des chantiers. Et là, ce n'était pas possible. Et depuis, ils ont commencé un autre chantier à Épane. Pour l'instant, on en est juste là des chantiers. Sur la bassine qui a commencé pendant les négociations, celle de Prière, on a réussi à arrêter 3 mois le chantier parce qu'on a attaqué, c'est l'API, l'association environnementale locale, qui a attaqué un conflit d'intérêts, qui a attaqué la mère du village. Je crois que c'est l'exploitation de son fils qui allait être accordée à la bassine, alors qu'elle était partie prenante dans les autorisations, elle aussi. Donc voilà, elle se donne elle-même l'autorisation de se construire une méga bassine. Donc ça a permis de stopper le chantier pendant 3 mois, elle a mis notre élu dessus et du coup c'est reparti, mais il y a les habitants autour de la bassine qui lancent en ce moment une plainte collective pour conflit d'intérêts contre Madame Boucherie. Je ne l'invente pas. Voilà, ça c'est pour le projet de la COP de l'eau dans les Deux-Sèvres. Moi, je suis du Clain de Poitiers, du bassin du Clain. Nous, on a un projet de 30 mégabassines. On en a 6 qui ont été annulées. Un recours porté par Vienne Nature qui a été gagné au tribunal administratif de Poitiers. En même temps qu'un recours contre un projet de 9 bassines dans un petit bassin de Charente qui s'appelle L'Homme Couture, qui est un tout petit bassin versant et qui a déjà une bassine et 13 mégabassines du coup. Et ils voulaient leur en rajouter 9. Ce qui nous montre bien qu'en fait, ils ne s'arrêteront pas tant que tous les irrigants massifs, hein, on ne parle pas de maraîchers qui ont quelques milliers de mètres cubes, hein, on parle de gens qui utilisent des centaines de milliers de mètres cubes. Tant qu'ils ne seront pas tous raccordés, ils ne s'arrêteront pas. En Vendée, on a un bassin versant qui s'appelle les Autises, un des premiers bassins versants avec l'Homme Couture à avoir eu des mégabassines. Il y a déjà, je crois, 70% des irrigants raccordés. Et là, ils veulent lancer un autre projet pour raccorder les 30% restants, en fait. Donc, on a gagné ces deux recours. Ce qui est très intéressant dans ces procès, c'est qu'on a gagné sur le fond. Ce qui a été retenu par le juge, c'est la maladaptation au changement climatique. C'est le fait que ça n'est pas de la substitution. Les bassines, elles s'appellent officiellement des réserves de substitution parce qu'ils estiment que le problème, c'est de prélever l'été. En fait, l'été, ils prélèvent beaucoup trop. Donc, les nappes se vident et les cours d'eau sont à sec. Donc ils se sont dit, on va prélever en hiver pour remplir les bassines en hiver. Tous les ans, ils ne prélèvent pas autant, okay, parce que ça dépend du volume qu'il y a dans la nappe. Ils ont une autorisation énorme de volume qui n'est jamais atteinte, et ils prélèvent jusqu'à ce qu'il y ait les arrêtés sécheresse. Là, les bassines, leur volume, il est pensé sur parmi leurs plus grosses consommations historiques. Concrètement, ça leur permettrait de pomper beaucoup plus à l'année, parce que les raccordés pomperaient l'hiver, et les non raccordés pourraient pomper plus longtemps pendant l'été, aller plus loin dans leur autorisation de volume. Ce qui fait que concrètement, ça nous augmente les volumes prélevés. Et ça, le juge l'a reconnu. Comme ce n'est pas de la substitution, il a interdit les bassines. Et puis, il y a un autre point qui est très intéressant quand même, c'est qu'il a reconnu qu'il n'y avait pas de plus-value économique aux exploitations. À part la valeur foncière du terrain qui augmente, ça ne les aide pas à avoir un meilleur salaire concrètement tous les mois par le produit de leur travail. Donc ça ne justifiait pas des financements publics. Voilà, ça c'était quand même une grande victoire. Mais bien évidemment, ils sont allés en appel. Avec les porteurs de projets, il y a la préfecture dans le 86 et le ministère de la Transition écologique en Charente. On a des projets qui arrivent un peu partout. Alors partout, il y a des nappes d'eau souterraines. Les bassines, ça va avec les nappes d'eau. C'est ça qui est assez paradoxal quand même. C'est que là où il n'y a pas de nappe d'eau, normalement il y a moins d'eau, et ben c'est les endroits qui sont le moins en tension hydrique, en fait, le moins en sécheresse systémique. Donc on en a dans le Gard, dans le Cher, il y en a une qui a... Enfin là, c'est carrément une réserve d'irrigation. Donc eux, ils s'en battent de dire que c'est de la substitution, ils disent clairement qu'ils vont augmenter les volumes. Ça ne leur pose pas problème. Donc une qui est en chantier. Mais il y a d'autres projets qui arrivent un peu partout. Ça, c'est l'actualité au niveau des chantiers et des projets. Au niveau de nos mobilisations, demain, on fait un événement de commémoration de la journée de Sainte-Soline à Mel. On va faire un cairn en mémoire à cette journée. Ensuite, on va aller pique-niquer quelque part. Ensuite, on va aller à la gendarmerie de Sauzé-Vaussé, où sont regroupés tous les objets qui ont été confisqués pendant les 24 000 contrôles de police qui ont eu lieu autour de Mel et Sainte-Soline. Notamment récupérer les boules de pétanque, parce qu'ils disent qu'on avait l'intention de jeter des boules de pétanque sur la gendarmerie. Bon, je trouve ça incroyable, parce que c'est quand même très lourd et très cher, une boule de pétanque. Donc, pour la petite histoire, il y avait un tournoi de pétanque organisé pas loin. Et beaucoup des gens qui sont allés au tournoi de pétanque se sont fait saisir leurs boules de pétanque. Il y a des restaurateurs qui se sont fait saisir leurs bouteilles de gaz, leurs couteaux. Il y a un prof de tennis qui s'est fait saisir 20 raquettes de tennis. Voilà. Et alors, il paraît qu'il y a des haches qui ont été saisies. Visiblement, il y en a une de l'équipe logistique, parce qu'on avait prévu de couper du bois. Et du coup, on a dû se débrouiller autrement pour couper du bois. Donc, on va aller récupérer tout ce matériel et on va aller faire un tournoi de pétanque. Qu'on a intitulé « On est encore là, ils ont les boules » de pétanque et de palais. Donc ça, c'est pour la journée de demain. Lundi, il y a des méga-booms, il y en a une ici. On a une petite note des renseignements territoriaux qui a fuité, comme quoi, ils ne s'inquiètent pas tant que ça, finalement, puisqu'ils ont l'air d'avoir compris qu'on n'avait pas l'intention de lancer les boules de pétanque sur la gendarmerie ou d'aller mettre le feu à la préfecture. Voilà, et puis le 31, journée récit témoignage à Mel, avec la diffusion des deux documentaires de Off Investigation et Reporter, Mégabassines Mensonges d'État, des mégabassines jusqu'au port de La Rochelle, puisqu'on a 70% des céréales de Poitou-Charentes qui sont exportées. Quand ils nous disent que c'est pour une agriculture vivrière, on rigole. Et puis, le deuxième volet sur la journée de Sainte-Soline, que je vous encourage vivement à regarder, peut-être pas toute seule, mais selon si vous avez vécu cette journée ou pas, parce qu'il est très très fort, et notamment il y a 4 blessés graves de cette journée qui témoignent et qui résument le fond de notre pensée. C'est-à-dire, tout le monde a été très marqué par cette journée. Je pense qu'on est beaucoup pour qui on a changé le cours de nos vies après cette journée. Mais en tout cas, on est toujours là et on leur fera bien savoir. Suite de la promo, je vous conseille cet ouvrage. Avoir 20 ans à Sainte-Soline, à l'initiative d'un collectif de sociologues et d'une géographe. C'est entre l'enquête sociologique et un contre-récit de ce qui s'est passé cette journée-là. Donc il y a des entretiens avec des jeunes qui étaient à Sainte-Soline, entre 17 et 29 ans, je crois. Et puis des textes d'intervention de personnes diverses et variées pour amener un éclairage. Et pour nous, ça devient vraiment très important d'écrire notre propre récit de nos événements. Dans le genre, ça fait du bien d'avoir une autre version qui rétablit la vérité, que la violence, elle venait bien d'en face et pas de chez nous. Et encore une fois, ce qui est assez marquant, c'est cette chose qui revient on est encore là, on sera toujours là. Et on a beau être marqué, on n'est pas à terre, quoi.
Ces sujets sont très très techniques. Comment vous faites sur votre territoire pour parler à des gens qui ne sont pas déjà convaincus? Qu'est-ce que vous avez fait pour rassembler plus de monde autour de vous?
Une des premières choses que Bastien Mercier a fait, c'est des réunions publiques qui font salle comble. Où il y a 200 personnes, il faut qu'on rajoute des chaises. 200 personnes, hein, faut voir une salle des fêtes de village. Hein. Quand l'année dernière, j'ai fait la contre-expertise du rapport du BRGM, ouais, 200 personnes quoi, qui viennent et qui se bouffent du graphique, de la statistique, et puis qui ont des questions à la fin. Quoi. Et en enseignant, j'ai jamais eu une qualité d'écoute aussi importante. Les gens, ils sont très en demande d'informations. Parce que sur ce sujet-là, en tout cas, on a une opacité totale. On a des mensonges avec des ministres qui s'en mêlent les pinceaux, qui sont même pas bons dans leurs mensonges. Marc Fesneau, il disait, c'est rempli avec l'eau superficielle entre deux pluies, quoi. Enfin, bon, c'est vraiment la première chose à faire, et c'est ce que nous, on va refaire là sur le bassin du Clain, parce qu'on a des chantiers de bassines qui risquent de commencer après les Jeux Olympiques, parce qu'il leur faut des forces de l'ordre pour commencer les chantiers de bassines, et peut-être pour conduire les tractopelles, il faut des gendarmes. Nous, ce qu'on se dit là, c'est la première chose à faire, c'est pas des plans de bataille, de la logistique ou je sais pas quoi, c'est des réunions d'information. Il y en a une, par exemple, il y a 2 mois sur le bassin versant où ça doit commencer, et ben, il y a eu 200 personnes et dans un village en faisant peu de communication. Il faut une série de réunions publiques. On va préparer un kit, en gros une présentation, quoi, un PDF à utiliser. Et puis, un dossier d'auto-formation, on pourrait dire, pour que les gens localement ils puissent s'emparer du sujet, organiser leur réunion publique, de préparer des cartes des projets de bassines. Comme ça, si les collectifs locaux ils veulent faire leur propre tract, ils ont déjà de la matière, en fait. Souvent, c'est très dur de s'approprier. Voilà, c'est hyper technique. Entre le cycle de l'eau et la gestion de l'eau... Moi, la gestion de l'eau, j'ai compris que tout finissait à la préfecture. Entre les agences de l'eau, les comités de bassin, les clés, les sages, les sdages et les préfectures, et j'en oublie très certainement, moi, je trouve ça plus compliqué que le cycle de l'eau, quoi. Donc, tout ça, de faire un peu des kits, et on en est à faire, on prépare un glossaire sur les termes, c'est quoi une nappe, c'est quoi un aquifère, c'est quoi le sage, c'est quoi le sdage, c'est quoi une clé. Tout ça, c'est énormément d'informations. Parce que souvent, une fois que les gens ils ont les infos, ils sont très rapidement en avis quand même. L'autre chose, je dirais, c'est à BNM, on est très dans la complémentarité des moyens d'action. Alors nous, on a choisi d'être un collectif informel qui regroupe plus ou moins des orgas. Chaque bassin Mercy fonctionne différemment. Donc on choisit de faire des actions avec les soulèvements de la terre, la Confédération paysanne, voilà. On n'est absolument pas en opposition, on est complètement complémentaires avec les réseaux France Nature Environnement, les associations d'environnement local qui portent les recours, par exemple. Nous, ce n'est pas notre mode d'action. Il faut quand même un agrément, que ce soit écrit dans les statuts, tout ça. Oui, on va travailler pas forcément main dans la main à des moments, la pile qui a porté le recours pour conflit d'intérêts à Prière, elle a appelé à la manif de Sainte-Soline et puis elle a eu des subventions consautées, des subventions pour un poste d'animateur nature, des ateliers pédagogiques avec les enfants. Donc il y a des choses comme ça. Il y a Alternativa qui a été menacée de devoir rembourser les subventions de son festival où il y avait un atelier des obéissances civiles parce qu'ils ont invité Julien Leguet. Des trucs comme ça. Donc des fois, pour ces orgas-là, c'est se protéger que de ne pas appeler à nos manifestations, que de ne pas forcément être très visible ensemble. Des fois, il y en a, la PI, elle fait des choses avec nous. Elle fait des choses avec le réseau Nature-Environnement qui est rarement directement en lien avec nous, mais par contre qui va être en lien avec les fédés de pêche. Les fédés de pêche, qui en général ne veulent rien avoir à faire avec Bassine Non Merci. Voilà. Mais le fait d'avoir ce dégradé fait que tous ces collectifs deviennent complémentaires dans la lutte contre les bassines. Et que c'est là où on peut appeler ça un mouvement anti-bassine, même si on ne fait pas des réunions avec tout le monde autour de la table. Et ça, c'est vachement important, je pense, de créer ces réseaux-là qui sont parfois indirects, mais qui font qu'il y a un raz-de-marée. Et là, il y a eu l'AG de la Fédé de pêche dans 86. Les députés se sont pris une volée de bois vert par le président. Ils savent maintenant la vie de la Fédé de pêche, quoi. Voilà, ils ne veulent rien avoir à faire avec nous, mais en fait, on est complètement d'accord. Et d'avoir écouté les arguments des uns des autres, en fait, on se renforce là-dedans. Aller à la rencontre des gens, c'est vraiment un truc. Enfin, je sais que souvent, pour nous, ils se font une idée des éco-terroristes et ça. Puis après, moi, quand ils me voient, je ne suis pas trop impressionnante, quoi. Donc, ça les rassure. Quand on arrive à discuter, et même souvent, on a fait des réunions vraiment au cœur du marais où il y a les irrigants qui sont venus. On en a fait deux dans la même semaine à la suite. La première, ils ont amené les carabines dans les coffres des voitures. Et moi, j'étais assez rassurée, en fait, qu'il y ait les gendarmes, parce que je ne savais pas trop pour qui ils étaient là, au final. Et la deuxième, on a commencé à pouvoir discuter. Alors, on n'est pas devenus amis, mais en tout cas, on a commencé à pouvoir échanger. Et à se dire, peut-être l'ennemi commun, c'est la coopérative. Peut-être c'est Lactalis, parce qu'il y avait des éleveurs de chèvres dans l'eau. Et des gens ont fini par nous dire, mais oui, de toute façon, on n'a pas le choix d'adhérer à la COP de l'eau, parce qu'ils sont devenus au UGC, nouveau terme technique, organisme unique de gestion collective. C'est cet organisme qui fait remonter les demandes de volume d'irrigation à la préfecture, qui les autorise, et ensuite, l'eau UGC redistribue entre tous les irrigants. Donc si on n'est pas dans l'OUGC, qui est la COP 79, donc qui est le porteur de projet des bassines, même quand on est un petit maraîcher bio qui veut 3000 m3, on est obligé d'adhérer au projet de bassine. Et donc, quand on a des irrigants qui, au début, venaient, qui avaient envie de nous casser la gueule, et qui, au bout de deux réunions publiques, nous disent « mais nous, il y a un chantage à l'irrigation, on est obligé d'être d'accord. » C'est beau, quoi. Enfin, c'est une victoire. C'est du travail de préparation. Et ce truc d'aller parler en public, par exemple, ou d'aller parler dans les médias, c'est pas toujours facile. À BNM, mais c'est arrivé qu'on aille rencontrer des collectifs où il y avait un début de projet de bassine, et puis on y va, on échange. Des fois, on peut rester même 2-3 jours, on suit les coups de main, on participe à monter un dossier de presse, et puis de transmettre cette expérience-là, quoi. Ce truc de tisser des liens et des réseaux, pour moi, il est très, très important. Et là, j'ai débordé complètement de la question de l'eau, mais je pense qu'il est très important au-delà de la question des bassines. C'est-à-dire ça, moi je trouve qu'on est dans une dérive un petit peu autoritaire en ce moment. Étant donné qu'il y a un des plus grands historiens du nazisme qui vient de dire récemment en interview qu'on était dans un état, oui, autoritaire à tendance fascisante, je me dis, si lui il le dit, c'est que je peux y aller, quoi. Et du coup, je trouve que pour les années futures, c'est important de déjà tisser ces réseaux, de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour que ces liens ils soient créés et qu'on ne sache pas se reconnaître après, quoi. Voilà, et de commencer à s'équiper de monter en compétences logistiques, d'infos, de choses comme ça, et d'apprendre à se connaître et de faire des choses ensemble. Ici, par exemple, à la Tour, le convoi de l'eau, ça a été beaucoup ça cet été. Comment on s'est organisé avec plusieurs collectifs dans plusieurs villes, comment dans les villes, il y a des gens qui se sont rencontrés autour de l'organisation de cet événement. Avant de partir, on avait déjà gagné cette bataille, quoi.
«
Et avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui va se passer du 20 au 21 juillet 2024, quelque part dans le Poitou, lors de la prochaine mobilisation internationale contre les méga-bassines ?
Ça va être merveilleux. Évidemment, pour l'instant, je ne peux pas trop dire de détails. Surtout que je ne les connais pas, en fait. Je pense que personne, aujourd'hui, ne peut vraiment faire une prédiction sur ce qui va se passer, concrètement. Ce qui est sûr, c'est que... Évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on va gagner. En tout cas, il y a des envies de faire des belles choses. Quand je disais de tisser ces liens et tout ça, en ce moment, c'est en train de se monter. Il y a des choses qui s'organisent pour les gens qui sont venus à Sainte-Soline 2. Il y avait la méga radio, une radio en ligne. Voilà, et bien il y aura à nouveau une méga radio. Il y a, on anticipe déjà comment on laisse trace de cette lutte. À ce moment-là, on va avoir des temps de construction positive. Bon, on ne sait pas encore quoi, comment, hein. Ah, comment ? Ah, ce sera ludique et joyeux. Ah, ça, c'est sûr. Et surtout, c'est du 15 au 21 juillet. C'est pour ça qu'on arrivera à faire des choses un peu plus pérennes et puis où on aura le temps de se rencontrer. On prendra le temps de se former et de se préparer et de prendre soin les unes des autres. On sera forcément sur un terrain, quelque part dans le Poitou. Et on a envie que sur ce terrain, il se soit passé des choses où notre trace ne sera pas qu'un geste de désarmement, mais aussi comment on construit l'avenir, justement. Voilà, il y aura... Il y aura probablement un temps fixe et un temps un peu mobile. Préparez peut-être vos vélos, vos canoës... Pas encore trop. L'information va circuler sur le site de BNM, bassinonmerci.fr, sur le fil Telegram des soulèvements, par les soulèvements. Bien évidemment, nous parlerons de tout cela dans la presse. Évidemment, il va y avoir un moment de paroxysme qui sera très probablement le samedi, le 20 juillet, voilà, qui est le moment où on s'attend à ce qu'il y ait le plus de personnes. Alors il y aura une programmation politique aussi au cours de la semaine. Il y aura pas mal d'espaces de rencontres globalement sur le village. Si vous voyez devant, il y a marqué village et convoi. Bon, convoi et village, on ne sait pas trop dans quel ordre, dans quel nombre, etc. Moi, je voudrais vraiment insister sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais moi, j'ai peur, notamment depuis Sainte-Soline 2, j'ai peur de retourner en manifestation. » C'est complètement normal. On ne parle jamais assez de l'importance des gens qui restent en base arrière et qui restent sur le camp, qui font que quand les gens qui sont partis en manif reviennent, on a à manger, on a un coup à boire, on a les enfants qui ont été gardés, les parents qui ont pu aller à la manif. Il y a une vie qui se passe aussi sur le camp pendant la manif. Évidemment, dans les médias, on ne voit que les premières lignes. Il n'y a pas que ça, je veux dire. C'est vraiment un tout. Quand je parlais de complémentarité des moyens de lutte, c'est aussi pendant cette semaine-là. Et c'est aussi bien dans le soin, et encore une fois, garder les bébés des gens qui ont envie, ou les plus grands, d'éplucher les patates. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, très variées. Et on va essayer de tout faire pour que tout le monde trouve sa place dans ce genre d'événement. Voilà.
On le rappelle donc pour finir cette émission avec Anne Morwenn-Pastier, qu'on remercie. Du 15 au 19 juillet 2024, nouvelle mobilisation internationale contre les bassines, villages et convois de l'eau quelque part dans le Poitou. Information à retrouver sur le site de Bassines Non Merci, où vous pouvez aussi co-signer la plainte pour mensonge déposée contre l'actuel ministre de l'Intérieur. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.